introduce que esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Les Algériens vont avoir une date pour leurs élections. Cette date sera fixée à partir du 15 septembre. On y reviendra dans un instant et pour cause, puisque ce soir nous recevrons la romancière Kawther Hadimi qui signe une sorte de conte algérien qui permet de comprendre ce pays et sa révolution en cours depuis un terrain vague qui sert de terrain de foot pour les enfants. Le bruit du monde en Argentine qui s'enfonce dans la crise, en Grèce aussi avec Amélie Perrier qui vous racontera pourquoi Birmingham est devenu à la mode. Le monde selon Trump, presque saison 3, c'est Grégory Phillips qui est là à 18h50 et qui a regardé la chaîne préférée désormais de Donald Trump. Et puis 18h55, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four qui a lu les élections allemandes et pour lui c'est bien l'extrême droite qui a sévèrement gagné. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Kawther Hadimi.
Bonsoir.
Votre livre s'appelle Les Petits de décembre, c'est publié au Seuil en cette rentrée littéraire et même sans le vouloir ou pas d'ailleurs vous allez nous le dire, il est totalement en phase avec l'actualité algérienne. Je raconte en peu de mots, c'est une sorte de conte, c'est une révolte pacifique d'enfants qui veulent pas qu'on bâtisse sur un terrain vague qui leur sert de terrain de foot depuis des années, qui veulent pas qu'on bâtisse deux villas que veulent se bâtir pour eux des généraux. Les enfants vont oser défier les généraux sous le regard inquiet mais admiratif aussi des adultes. On sait, Kawther Hadimi, que le temps de l'édition est un temps long, donc ce livre a été écrit avant le 22 février.
Oui.
Mais enfin, au fond, il est la preuve que la jeunesse algérienne était prête. Et au fond, ce livre est une sorte d'avant-coureur que oui, il pouvait se passer quelque chose d'assez imminent et c'est exactement ce qui s'est passé.
Alors, effectivement, le temps de l'édition est très long puisque moi, ce livre, je le porte depuis... Enfin, j'en ai eu l'idée en 2016 et j'ai fini de l'écrire au moment des premières marches
Et vous avez dû
Algérie.
Vous dire « Waouh !»
C'était un sentiment très étrange, ouais. Très bizarre. À la fois, je me disais « Waouh !» et à la fois, je me disais « Mais qu'est-ce que j'ai écrit ?» Et je n'avais pas du tout l'ambition d'écrire un livre d'actualité. Effectivement, j'ai écrit un roman qui me semblait un peu être une métaphore de quelque chose, une histoire de révolte, une histoire de non-possibilité entre plusieurs générations. Effectivement, l'actualité a rattrapé ce roman, mais sans le vouloir du tout.
Mais c'est vrai que vous êtes pile dessus, et notamment, vous venez de le dire, vous parlez de génération, ce qu'on voit dans votre livre, quand les plus jeunes commencent à se révolter parce qu'ils ne veulent pas lâcher leur terrain de foot, les plus vieux n'osent pas y aller frontalement, et comprennent pas. Et au fond, quand on regarde l'Algérie aujourd'hui, on se dit, il y a ça aussi, oui. Les plus vieux disent, attends, on est passé par là, nous, c'est pas forcément une bonne idée, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu au début de cette révolution. D'ailleurs, vous l'appelez révolution algérienne ou pas?
Dans mon livre,
celle qui est en cours.
C'est une révolution tout court, je pense que c'est une vraie révolution et qu'elle va changer en profondeur la société algérienne. Après, effectivement, je pense que qu'il se passait des choses, c'est un peu aussi ce que j'écris dans mon roman. Et lorsque j'écris mon premier roman, je l'ai écrit quasiment 10 ans avant celui-ci. Et j'avais l'impression qu'on arrivait à la fin d'un cycle, c'était la fin de la guerre civile. Et j'ai eu envie de raconter ça, cette fin de cycle, ce qui se passait à Alger à ce moment-là. Et j'ai eu l'impression d'un nouveau cycle en 2016. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et je pense qu'il fallait vraiment être extrêmement déconnecté du terrain, être très très loin des Algériens pour penser qu'on pouvait proposer un cinquième mandat de Bouteflika sans qu'il ne se passe rien. Et c'était assez évident pour moi qu'il pouvait se passer des choses. D'ailleurs, il s'est passé des choses. Il faut rappeler aussi qu'entre 2016 et 2019, il y a eu des manifestations.
Il y a eu 88 notamment, il y a eu ces périodes-là. Mais justement,
même ces dernières années, il y a eu des manifestations. Les gens sont sortis pour manifester contre le gaz dans le sud du pays. Il y a eu des c'est un truc qui m'avait beaucoup interpellée. Il y a eu un jeune artiste qui a été arrêté à Alger parce qu'il jouait de la guitare dans la rue. Et dès le lendemain et les jours qui ont suivi, des artistes sont sortis, puis des gens sont sortis dans la rue pour manifester. Ça, c'était assez nouveau aussi sur les dernières années. Et donc, c'est vrai que nourri de tout ça, j'ai eu envie de raconter une histoire de révolte.
Il y a dans votre livre deux personnages qui sont des colonels à la retraite et qui ont cette phrase à un moment qui résonne là aussi, qui dit « Mais c'est notre tour !» C'est ce qu'ils ne cessaient de répéter lors de leurs nombreuses balades. « Oui, bientôt ce sera nous et ce nous englober les hommes de leur génération, nés avant l'indépendance et qui n'avaient toujours pas pris leur place dans la société, empêchés par les aînés. » Et cette génération-là, au fond, à sauter, en fait, d'une certaine façon. Il y a celle qui a fabriqué la révolution, c'est la génération des Bouteflika. L'autre au milieu, rien, enfin en tout cas beaucoup de tentatives, mais rien. C'est celle d'après, au fond, qui est en train de se lever aujourd'hui.
Oui, et puis celle d'avant est aussi là et propose des choses. On l'a vu avec le panel, on l'a vu avec cette liste qui a été proposée pour dialoguer, pour mener le dialogue entre les aspirations de la société et les aspirations du pouvoir. Et on voit que tout ça a du mal à prendre et que la jeunesse, vendredi après vendredi, mardi après mardi, s'oppose à ça. Et c'est ce que j'ai eu envie de raconter dans mon livre. C'est cette jeunesse qui se révolte pour un terrain de football, qui lutte contre des généraux, et une génération qui voit ça de loin, qui n'ose pas monter et rejoindre. À aucun moment, dans mon livre, à aucun moment, les parents ne vont rejoindre les enfants.
Ouais, mais par respect aussi, finalement, à la fin. Aussi par respect, puisque c'est leur révolution, ils restent en bordure de terrain pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis, que ça se passe bien, qu'ils dorment et qu'ils mangent.
Peur aussi,
mais ils rentrent pas à l'intérieur.
Oui, mais il y a aussi un petit peu, d'abord, dès le début, et puis tout au long du roman, il y a aussi quelque chose de l'ordre du on ne fait pas une révolution comme ça, on fait une révolution. La révolution, on n'occupe pas un terrain. Il y a aussi quelque chose de l'ordre on ne se révolte pas pour un terrain de football. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un peu de mépris pour le combat des enfants. Et puis, il y a un peu de mépris pour la jeunesse. En Algérie, il y a plein de mots pour dire enfant. On dit buzz, on dit chier dans l'ouest du pays. Enfin, il y a plein de mots qui sont pas toujours qui peuvent être assez péjoratifs, qui sont pas toujours très gentils. Et je pense qu'il y a eu aussi pendant longtemps un peu un mépris envers la jeunesse. Si tu es jeune, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas accéder à des responsabilités, tu ne peux pas. D'ailleurs, dans les ministères, jusqu'à il y a pas très longtemps. On ne trouvait pas de ministre de moins de 40 ans, etc. Et donc, je pense que ça explique aussi le mépris des personnages adultes dans mon roman.
Et d'ailleurs, dans ces dialogues, y compris avec les personnages adultes, on entend des choses qu'on a entendues ces derniers mois en Algérie. Le pays n'est pas prêt pour une alternance. Nous sortons à peine du terrorisme, alors que ça fait quand même un bail que vous êtes sorti effectivement du terrorisme.
Mais ça, c'est le pouvoir qui dit
exactement.
Ça depuis très longtemps.
C'est vrai que le pays manque encore de stabilité. La population n'est pas prête à changer de régime. C'est toujours le prétexte qu'on donne à une population. Le chiffon rouge du terrorisme, c'est des choses qui ont été évidemment agité là, dans cette révolution, comme dans d'autres d'ailleurs.
C'est les armes des généraux, c'est-à-dire on va dire que c'est la main de l'étranger, donc on va dire que les gens sont manipulés par des pays étrangers qui cherchent à déstabiliser le pays. On va dire que si on se révolte, on l'a déjà fait en 88 et ça a donné lieu au terrorisme. Alors, est-ce que vous voulez le terrorisme? Donc non, donc ne vous révoltez pas, etc. Et justement, c'est pour ça que moi j'ai choisi des personnages d'enfants, parce que eux
n'ont pas ce passé-là.
Ils ne comprennent pas ce genre de choses. Donc les généraux se retrouvent extrêmement démunis face à ces enfants, puisque les armes qu'ils ont l'habitude d'utiliser
ne peuvent pas les utiliser contre des enfants.
Exactement.
Et eux, d'ailleurs, ne savent pas sur quel pied danser non plus. Il y a ce dialogue qui est presque drôle. Les temps ont changé, mais depuis quand laissons-nous nous faire? Mais depuis que le cours du pétrole a dégringolé, que les réseaux sociaux nous permettent plus d'empêcher les gens de parler, de commenter, de dénoncer, depuis que tout le monde a un téléphone portable, etc. etc. Autant de choses que ces généraux-là dans votre livre, mais au fond, en Algérie aussi, n'ont pas compris, n'ont pas vu venir ou n'ont pas su lire en tout cas correctement peut-être.
Oui, j'ai quelqu'un qui me disait les généraux dans ton roman sont presque finalement attachants, parce qu'ils sont dépassés.
Mais totalement, absolument.
Oui,
il y a quelque chose de très burlesque en fait dans ces personnages-là.
Ils sont paranoïaques, donc ils ont des dossiers sur tout le monde. Ils sont plus que prêts à se battre. Ils savent qui sont leurs ennemis. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent face à des mômes. Et ils ne peuvent rien faire. Et ils sont complètement, effectivement, démunis, désarmés. Et on n'arrête pas de leur dire, mais non, on n'y peut rien. On ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les menacer. Ils ne comprennent pas la menace. De toute façon, c'est le propre d'un enfant. Vous ne pouvez pas l'obliger à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et donc, toute la trame du roman repose sur ce combat-là, entre des généraux tout puissants, des enfants qui n'ont rien ou presque rien, et comment est-ce qu'on arrive à une situation complètement inextricable, et que vont faire les généraux pour récupérer leur terrain.
Alors, je ne vais pas la raconter la fin, mais le mouvement, la révolution algérienne aujourd'hui existe encore, elle est moins médiatisée qu'elle l'était, elle l'est toujours quand même, et il y a eu ces phrases du général Salah, c'était il n'y a pas si longtemps, les institutions de l'État sont une ligne rouge qui n'a n'admet ni tractation ni préalable, et encore moins des diktats illégaux. Ça veut dire que vos généraux à vous, dans votre livre, ressemblent beaucoup quand même à ce général Salah qui, lui, a pas passé la main, c'est le moins qu'on puisse dire.
Est-ce que n'a pas passé un bon été.
Elle n'a pas passé non plus un bon été, probablement. Très mauvaises vacances pour le général Salah. Mais ça dit jusqu'à quel point les généraux, les vôtres, ceux-là, les vrais généraux, sont pas prêts à lâcher du lest.
Mais est-ce qu'il y a un seul général dans le monde qui est prêt à lâcher du lest? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est les généraux, c'est pas leur rôle, en fait, de lâcher du lest. C'est pas leur rôle de fabriquer la démocratie.
Dans la rue, on entend le pouvoir au civil. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, vous êtes toute jeune, vous avez 33 ans, est-ce que vous pensez que vous verrez en Algérie le pouvoir au civil? Ce cycle-là, c'est celui-là, selon vous?
Alors, je ne sais pas si ce cycle-là... Je pense que ce cycle a changé les choses de manière radicale, absolue, et que ce ne sera plus jamais pareil. Mm-hmm. Ça, je le pense sincèrement. Je pense que, oui, un jour, je verrai ce cycle-là. Et si je ne le pensais pas, quelle mm-hmm. tristesse serait ma vie. Après, je pense, et c'est ce que pensent beaucoup mm-hmm. d'Algériens, ou la majorité des mm-hmm. Algériens, c'est que ce n'est pas aux généraux de construire une démocratie. Mm-hmm. Qu'ils ne veulent pas lâcher du lest, très bien, qu'ils le fassent dans le cadre de ses fonctions. Maintenant, on voit à quel point toute mention, toute présence de l'armée dans un lieu qui n'est pas le leur hérisse le poil, énerve les gens. Donc il se passe aussi quelque chose entre le civil et l'armée. Lorsque les militaires sont présents pour la finale de la CAN, et que c'est un symbole qui est inacceptable pour les Algériens. Donc en fait, il va falloir apprendre en fait à lâcher du lest, même si ce n'est pas dans leur tempérament.
Et c'est pas gagné forcément. On a appris aujourd'hui qu'on fixerait une date d'élection à partir du 15 septembre. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que c'est l'armée qui l'annonce, c'est pas le président par intérim qui l'annonce, mais c'est l'armée, ce qui dit quand même quelque chose. C'est quoi? C'est un gage qu'on donne? Ou c'est l'idée qu'il faut les fixer, qu'il faut qu'elles viennent le plus vite possible, comme on voulait déjà le faire le 4 juillet, parce qu'on sait pertinemment qu'on n'a pas le temps d'organiser des élections dans ce temps-là. Faut-il quand même fixer une date? Qu'est-ce que vous en dites?
Alors, moi, je pense qu'il y a des préalables, qu'il y a aujourd'hui plus d'une quarantaine de personnes qui sont en prison parce que ces personnes ont manifesté, ou parce qu'elles ont écrit quelque chose, ou parce qu'elles ont brandi un drapeau berbère, et que je ne vois pas très bien quel gage on peut nous donner tant qu'il y a des personnes qui sont en prison, tant qu'on barre les routes pour empêcher les gens de rejoindre des manifestations. Ensuite, je ne vois pas très bien comment, dans un pays où depuis des décennies, on a organisé des élections qui étaient, disons-le, factices, avec des candidats parachutés, décidés, etc., comment est-ce qu'on peut vraiment avoir envie d'organiser de vraies élections en 3 mois, et comment on peut mener une campagne électorale en 3 mois dans un pays où ce seraient les premières élections réelles. Pour se présenter aux élections, ces dernières années, on a quand même beaucoup verrouillé les choses, c'est-à-dire que dès lors que vous avez vécu à l'étranger pendant un certain nombre d'années, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections, etc. Et que ce serait aussi bien de revoir qui peut se présenter, comment faire pour ouvrir le plus possible le champ et avoir des personnes différentes.
Il y a une instance nationale de dialogue et de médiation qui est censée essayer de mettre tout ça sur la table. Vous pensez qu'elle peut sortir des choses de cette instance-là qui a l'air assez mouvante? Il y a eu beaucoup d'entrées-sorties depuis qu'elle est mise en place.
Vous savez, aujourd'hui, c'est la rue qui, pour moi, c'est la rue qui est capable de donner une légitimité ou non à une instance. Force est de constater qu'aujourd'hui, cette instance n'a pas la légitimité de la rue. Et c'est très compliqué, parce que c'est très compliqué de réussir à créer quelque chose qui a une légitimité face à un mouvement aussi fort, aussi légitime, puisque c'est celui qui est spontané, qui vient de la rue, aussi transgénérationnel qu'il l'est.
Je voudrais revenir à votre livre pour terminer. Il y a un personnage qui est très attachant qui s'appelle Adila. C'est une vieille dame qui a combattu pour l'indépendance autrefois. Et c'est fou parce que vous avez vu comme moi que Djamila Bouhired était sortie dans les rues d'Alger il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle, en fait, entre ces deux personnages-là. Et Djamila Bouhired, quand on l'a vue sortir, elle était derrière une banderole qui disait « On ne libère pas un pays si on ne libère pas les femmes ». Est-ce que d'ores et déjà, ce pays a apporté quelque chose aux femmes algériennes, ou c'est un deuxième temps, cette affaire?
Il ne faut pas que ce soit un deuxième temps. Et malheureusement, pendant la révolution algérienne, les femmes étaient au mm-hmm. premier plan. Mm-hmm. Jamila Bouhelet, c'est une de ces nombreuses femmes, mm-hmm. et elles ont perdu leurs acquis tout au long de ces années. Moi, je pense pas que ça doit être un deuxième temps. Il faut que ce soit un combat qui arrive au même moment. Le risque, c'est que ce soit un deuxième temps. Le risque, c'est que ça n'arrive pas. Il y a des manifestants qui brandissent des banderoles en ce sens-là. Il faut que ce soit portée effectivement dès à présent, sinon ça ne marchera pas.
La présence d'une figure de ce type-là, je crois que c'est Benjamin Stora qui a dit que les fils étaient renoués, étaient noués entre les deux révolutions, ça vous paraît pertinent et surtout important de voir ce fil noué là, où au fond,
moi, j'aime pas
comme vous dites, vous avez 33 ans, c'est plus votre histoire.
Non, moi, c'est notre histoire, tout comme, évidemment que c'est notre histoire. Après, moi, j'aime pas vraiment ce type de parallèle. On parle pas d'une décolonisation. La question de la citoyenneté, elle peut se poser d'un point de vue moral. On sait qui on est, on a une nationalité. J'aime vraiment pas ce parallèle-là, qui serait trop facile. En revanche, c'est une révolte, elle est réelle. Les choses vont changer et ceux qui ne veulent pas que les choses changent sont ceux qui ont peur de perdre leur petit confort, qui ont peur de travailler, qui ont peur de voir leurs petits arrangements du quotidien changer, c'est tout.
Il y a une phrase d'Adila qui est formidable, on va conclure avec ça, qui dit: une révolution c'est beau, c'est con, à la fin c'est souvent triste. Ce qu'on espère, c'est que cette révolution, à vous, celle des Algériens, ne sera pas triste et on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler ensemble. Kauter Adimi, merci beaucoup. Ça s'appelle Les Petits de décembre et c'est publié au Seuil.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
Et la suite, c'est le bruit du monde avec l'Argentine d'abord, qui se débat dans une crise politique et économique. Camille Perrier également.
La Grèce de nouveau prise dans la crise migratoire.
Le Monde selon Trump, saison 3, Grégory Phillips. Grégory.
Le désamour de Trump pour Fox News et sa passion pour une nouvelle chaîne qui s'appelle OAN.
Et à tout à l'heure, juste avant 19h, Le Monde à l'enfer. Bonsoir à vous, Jean-Marc Faure.
Bonsoir à tous.
Allez-y.
En ex-Allemagne de l'Est, l'extrême droite prospère parce que le mur est toujours là.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Tiens, écoutez donc cette nouveauté qu'on vous fait découvrir, les Teskey Brothers, So Caught Up. C'est tout neuf dans la playlist, ils sont australiens, paraît-il. Le bruit du monde commence ce soir en Argentine, où gagne la panique. Crise politique, crise économique, depuis la défaite surprise du président Macri à ce que les Argentins appellent les élections primaires. 16 points derrière ses adversaires péronistes. Dévaluation, ça s'est passé dès le lendemain. Démission du ministre de l'économie, dévaluation encore, et plus de pauvreté. Caroline Vic, vous nous ramenez d'abord le 11 août dernier, quand le chaos a commencé.
Ventaja de Alberto Fernández sobre Macri es la primera tendencia.
Oui, des élections primaires qui ont pour but de déterminer les candidats à l'élection présidentielle, mais qui ont une particularité en Argentine, c'est qu'elles ne sont pas internes aux différents partis politiques. Tous les Argentins vont voter et ces primaires sont donc vécues comme une sorte de répétition générale du premier tour. Avant les élections, d'après les médias et les sondages, Macri était encore fortement soutenu par les Argentins. Le résultat de 48% pour Alberto Fernández contre 32% pour Macri a donc surpris non seulement les Argentins, mais aussi la bourse. À l'ouverture des marchés lundi matin, en une heure, les actions ont chuté de 30%, entraînant la dévaluation du peso. Le même jour, affaibli, en colère contre les électeurs et encore choqué par la défaite, voilà comment réagissait le président lors d'une conférence de presse.
Si le kirchnerisme gagne l'élection en octobre ou en novembre, le problème sera toujours là. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Le kirchnerisme a déjà montré son projet dans le passé, qui a été un échec. C'est ce qui a provoqué la dévaluation de ce matin. Moi, je ne peux rien contre ça. Je ne dirige pas les marchés.
Ils sont agotados, cansados, enojados.
Fortement critiqué par la presse et l'opinion publique, deux jours après, le président est apparu plus calme dans une allocution enregistrée s'excusant de son comportement peu présidentiel. Pour Ricardo Morato, analyste politique, le responsable de la réaction négative des marchés n'est ni le kirchnerisme ni l'électeur, mais bien Mauricio Macri.
Ce gouvernement, soutenu comme aucun autre par les médias, faisait croire qu'on vivait une période de prospérité. Mais tout cela a été mis en valeur avec ce résultat électoral, parce que ce n'était pas ce que les gens vivaient réellement, mais bien le contraire. Ce gouvernement a réussi à approfondir la récession et l'inflation. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont mis le roi à nu. Donc, avec les Argentins et le prochain gouvernement, nous devons restaurer la confiance et la crédibilité des institutions. Sinon, ce sera très difficile d'assurer le destin de la République argentine.
Depuis la crise de 2001, on n'avait pas vécu autant d'incertitudes politiques et économiques en Argentine. Alors le pays est dans une période en ce moment un peu hybride, parce que d'un côté il y a un président qui n'a plus le soutien populaire et en même temps qui est candidat à la réélection. Et de l'autre, Alberto Fernández, le candidat favori, mais déjà considéré comme le futur président avant même d'avoir été élu, puisque le premier tour aura lieu le 27 octobre. Bien sûr, tout cela inspire peu de confiance au marché. Le dimanche des élections, 1 euro valait 50 pesos. Aujourd'hui, il en vaut 70. Les Argentins, victimes de plusieurs crises durant leur histoire, ont incorporé une espèce de mécanisme de défense économisé en dollars, ou à travers un compte épargne, ou en changeant ses pesos pour des dollars, pour se protéger contre l'instabilité. C'est le cas de Béatrice, 50 ans et enseignante, qui a appris des leçons du passé.
On sent beaucoup d'impuissance, mais on prend plus de précautions qu'avant. La semaine après les élections, quand le dollar a augmenté et qu'on a entendu tout type de rumeurs, j'ai retiré mes dollars de la banque, par peur. Parce que je travaille beaucoup pour économiser cette petite somme. C'est le fantôme de 2001, c'est le fantôme de notre pays. Il suffit de voir notre histoire. Depuis 1810, c'est un cycle, c'est comme ça.
Résignation et une impression de déjà-vu pour certains, inquiétude pour les autres et surtout pour les plus jeunes, comme Paula, psychopédagogue de 35 ans.
Quand je vais au supermarché, je cherche les meilleurs prix. J'ai arrêté d'envisager l'achat d'une maison ou d'une voiture à cause de tous les coûts que cela implique. De plus, le salaire qu'on m'augmente une fois par an termine dévoré par l'inflation du pays. Donc je ne peux presque pas mettre d'argent de côté à la fin de l'année. Il est impossible de se projeter, on reste figé dans une situation. Et ça génère beaucoup de désillusions et de frustrations.
Ne reste que le vote pour espérer changer les choses. Le premier tour est prévu le 27 octobre et le ballotage, le cas échéant, le 24 novembre. La passation de pouvoir aura lieu, elle, le 10 décembre. Depuis les élections primaires, le peso a dévalué de près de 50%. Le risque pays a augmenté et l'inflation annuelle prévue à 40% s'élève maintenant à 50% en 3 semaines seulement. 4 mois jusqu'à l'installation du prochain gouvernement à la Casa Rosada semble donc pour les Argentins une éternité.
Caroline Vic en Argentine pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde passe parfois sous les radars. Amélie Perrier est là pour vous le faire entendre. Et ça commence en Grèce, Amélie, la Grèce qui pensait avoir surmonté cette épreuve, mais la crise migratoire revient dans son actualité.
Aujourd'hui même, plus de 1200 réfugiés ont quitté l'île grecque de Lesbos pour être transférés sur le continent. Des Afghans en majorité qui se sont précipités pour sortir de cet enfer, car le camp de Moria, créé en 2015 sur Lesbos, lors de la précédente vague, donc, est aujourd'hui totalement saturé. Il pouvait accueillir 3000 personnes, aujourd'hui 12000 s'entassent là avec des problèmes sécuritaire et sanitaire grave. 2 médecins seulement. Écoutez, Astrid Castelin, elle est la responsable du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU sur l'île. Elle est au micro de TV5 Monde.
Il y a beaucoup de familles vulnérables qui ont besoin d'assistance. Il est urgent que le gouvernement grec prenne des mesures afin de décongestionner l'île.
Car cet été donc, les arrivées se sont de nouveau multipliées. Le HCR parle de plus de 3000 entrants rien qu'au mois d'août. Jeudi dernier, 13 bateaux sont arrivés à Lesbos, 540 personnes à leur bord, dont 240 enfants qui ont débarqué donc sur cette île d'Égée septentrionale. C'est tout près de la Turquie. Et ce week-end, on a encore dénombré près de 300 arrivées. Alors le gouvernement grec réagit en urgence. Samedi, il a annoncé le transfert des mineurs et des réfugiés les plus vulnérables vers Athènes. C'était l'opération donc de ce matin. Il a aussi annoncé, le gouvernement, la suppression des procédures d'appel aux demandes d'asile. Si la première demande est rejetée, c'est le retour direct en Turquie. Et la surveillance de la côte est également renforcée.
La Suède, elle, a décidé de faire payer ses banques.
Le gouvernement suédois vient d'annoncer qu'il allait taxer le secteur pour financer son armée. La Suède veut augmenter son budget militaire. Alors ici, c'est une pub de la grande banque suédoise.
Totalement effrayant.
C'est avec Snoop Dogg, le rappeur américain. Ça a été rebaptisé Smooth Dogg, car l'entreprise veut rendre les paiements smooth, doux, sans accrocs. Le secteur n'a pas fini de nous surprendre, donc, et les Suédois avec. Mais ici, c'est très sérieux. Stockholm veut faire face aux menaces de la Russie de plus en plus belliqueuse. Les avions russes, depuis l'annexion de la Crimée, ne cessent de se rapprocher de l'espace aérien des pays nordiques. Les autorités ont également dénoncé un brouillage des radars civils et la présence d'un sous-marin dans ces eaux qu'elle accuse d'être russe. En juillet, les Suédois ont installé un nouveau système de défense anti-aérien sur l'île de Gotland, en face des États baltes. Alors, pour financer tout cela, le ministre de la Défense va se servir là où il y a de l'argent. Alors, pas dans le hip-hop, non. Le ministre de la Défense l'a dit ce week-end, les 4 plus grandes banques du pays ont enregistré un bénéfice de 112 milliards de couronnes l'an dernier, c'est l'équivalent de 10 milliards d'euros. Elles sont donc les mieux placées pour assurer les rallonges budgétaires aux militaires.
Allez, au porte-monnaie, en cette rentrée, enfin, vous pensez déjà aux prochaines vacances, je vous reconnais bien là, et vous cherchez des idées originales.
Alors en voici une au Royaume-Uni, Londres c'est sympa, hein, mais Birmingham c'est bien plus tendance grâce à ça.
I'm a businessman. I want to make my business successful.
Vous connaissez cette série, Fabienne ?
Mais non, en fait.
Peaky Blinders. Ah, c'est une super série, vraiment. Birmingham a attiré un nombre record de visiteurs l'an passé, près de 43 millions de touristes. C'est une augmentation de 26% en 5 ans. Et parmi eux, de nombreux fans donc de cette fiction qui nous plonge dans la mafia et les gangs criminels, les Peaky Blinders, une famille d'origine tzigane dans l'entre-deux-guerres. Et toute la région des West Midlands en profite en fait avec les villes de Wolverhampton, Coventry, Dudley ou le Black Country Living Museum a accueilli le tournage de Peaky Blinders. Et en fait, elle en fait la promotion. Hein. Beaucoup veulent voir les décors bien réels de la série Les Bâtiments en briques rouges. Un festival lancé par le créateur de la série va se tenir dans le quartier de Birmingham qui donne son nom au gang de la fiction. Des visites touristiques, des événements artistiques profitent donc de cette nouvelle attractivité. Peaky Blinders, créé d'abord sur la BBC Two et puis diffusé en France sur Arte, est disponible aujourd'hui sur Netflix, c'est-à-dire 183 pays, d'où le boom international de fans et de touristes à Birmingham.
Eh bien, et hop, à Birmingham.
C'est une bonne idée, non ?
Mais absolument, Mamie Perrier, merci beaucoup. À demain.
À demain.
Jefferson Airplane sur France Inter. Somebody to love. Certains ont tricoté quelques souvenirs là-dessus. Hein, Jean-Marc ? Airplane sur France Inter. Somebody to love, tiens au hasard, Grégory Philips.
France Inter, un jour dans le monde.
That information that was false and fake.
Grégory Philips, comme tous les lundis, Le Monde selon Trump, saison 3. Vous suivez évidemment, Grégory, les trajets, les conséquences de l'ouragan Dorian. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h. Mais d'abord, votre ami Donald Trump, avec le divorce quasi consommé entre le président américain et ce qui était, il y a encore très peu, sa chaîne de télé favorite Fox News.
Oui, à plusieurs reprises ces dernières semaines, Donald Trump s'en est pris assez violemment à Fox News, qu'il accuse maintenant de perdre sa ligne éditoriale et des millions de téléspectateurs. Et à plusieurs reprises aussi, il a sur Twitter vanté une nouvelle chaîne d'information en continu qui s'appelle One America News, OAN, dont voici la bande promo.
One America News Network, your leading source for the latest breaking national and international news. With nearly four times as many headlines as the other networks. Straight news, no speculation, no opinion.
Alors qu'est-ce que ça dit ? Rien que des infos, pas de spéculation, pas d'opinion, dit cette publicité. Mais bon Fabienne, en vérité c'est pas tout à fait vrai, parce que cette chaîne créée en 2013 à San Diego par un millionnaire californien, Robert Herring, roule ouvertement pour Trump depuis le début. La chaîne est encore un peu confidentielle, mais elle affirme être désormais la quatrième chaîne d'infos en continu derrière Fox, MSNBC et CNN. Et de plus en plus souvent, c'est vrai qu'on voit les journalistes d'OAN, par exemple à la Maison Blanche, et de plus en plus souvent sollicités par le président pour lui poser des questions.
Et donc Grégory, n'écoutant que votre courage, vous avez regardé pendant quasiment 24 heures cette nouvelle chaîne de télé. Donc qu'est-ce qu'on y trouve ?
Alors j'ai fait comme Donald Trump, je me suis levé tôt, un petit peu avant 6 heures du matin, j'ai allumé la télé, en l'occurrence donc One America News, et voici comment la journée débute.
I pledge allegiance to the flag.
Cette journée débute à 6h du matin par le serment d'allégeance prononcé par tous les présentateurs de la chaîne, les uns après les autres, un peu comme les élèves dans les écoles américaines. On est clairement sur une chaîne patriote. Et puis ensuite, au fil de la journée, la ligne éditoriale est assez claire. Toutes les heures, par exemple, il y a cette rubrique qui tient le décompte de ce que coûte l'immigration illégale au pays.
We want to update our viewers on today's numbers showing just how much illegal aliens are costing US taxpayers.
Et donc là on voit un tableau avec le nombre supposé de migrants clandestins actuellement sur le territoire et puis aussi ce que ça coûte aux contribuables. Ça c'est donc toutes les heures. Ensuite il y a des reportages très à charge contre les démocrates. La représentante musulmane du Minnesota, Ilhan Omar, est rebaptisée la migrante de Somalie. Le soir il y a deux talk shows très très à droite présentés par Graham Ledger à 20h qui est un peu ce que Sean Hannity est à Fox News, puis Liz Weller à 21h, ultra conservatrice âgée de 30 ans, qui ce soir-là s'en prend à tous ceux qui l'accusent de servir la soupe aux suprémacistes blancs. Elle attaque aussi Bernie Sanders, qualifié de communiste, le communiste Bernie Sanders, qui préfère la Chine à son pays, les États-Unis.
Mais alors, est-ce que cette chaîne, qui s'appelle donc One American Network, peut détrôner Fox News, Grégory ?
Alors pour l'instant, la chaîne est disponible sur le câble et sur Internet. Elle est encore assez confidentielle, mais clairement, elle marche sur les pas de Fox News avec un ton encore un peu plus à droite. Vous l'avez entendu. Et puis la publicité que lui fait maintenant Trump va sans doute la faire mieux connaître par les supporters du président.
Voilà. Et j'en profite pour dire qu'il y a, grâce à la rédaction numérique de France Inter, une grosse page, une vraie page sur cette chaîne, nouvelle chaîne chouchoute de Trump. Allez donc y faire un tour. En bref et rapidement, Grégory, pour terminer, c'est Labor Day aujourd'hui aux États-Unis, donc c'est jour férié. Et qu'est-ce qu'il fait Donald Trump ?
Eh bien ce midi, il est au golf dans son club de Virginie pour la deuxième fois en trois jours. Vous vous souvenez quand même que le président américain avait annulé son voyage en Pologne prévu le week-end dernier pour surveiller la situation de l'ouragan Dorian.
Grégory Phillips aux États-Unis, comme toutes les semaines, tous les lundis, Le Monde selon Trump. Merci Grégory.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four. Jean-Marc, dans les provinces d'Aix-Allemagne de l'Est, en Saxe et dans le Brandebourg, l'AFD, autrement dit l'extrême droite, espérait l'emporter hier. Elle n'arrive que deuxième, mais vous dites, ne nous y trompons pas, c'est en fait un vrai succès pour l'AFD, un ultime avertissement sans frais pour les partis de gouvernement, et c'est votre Monde à l'envers.
Oui, évidemment, on pourrait être tenté de dire « Ah, les médias ont encore crié au loup, vous voyez bien, c'était pas la peine de s'affoler, la victoire des extrémistes n'a pas eu lieu ». Sauf que si les deux partis de gouvernement, la CDU de centre-droit et le SPD de centre-gauche, ont peut-être sauvé les meubles, mais ça ne doit pas nous cacher l'essentiel. La poussée de l'extrême droite dans ces deux Länder d'ex-Allemagne de l'Est est énorme. C'est une victoire. En Saxe, au sud, près de la frontière avec la République tchèque, l'AFD, donc Alternative für Deutschland, triple son score par rapport à 2014, plus de 27%. Dans le Brandebourg autour de Berlin, près de la frontière polonaise, l'AFD double son score, près de 23%, plus de 23% même. Le tout avec une participation élevée, donc avec une vraie légitimité démocratique. Dans certaines circonscriptions de ces deux régions, l'extrême droite approche même les 40%. Et cette poussée spectaculaire, elle se fait d'abord au détriment du parti de gauche radical, Die Linke, qui s'effondre. Autrement dit, l'extrême droite est devenue, en tout cas en ex-Allemagne de l'Est, le parti protestataire qui exprime la colère des classes populaires. Il y a quelques mois, l'AFD semblait à la peine en proie à des divisions internes, des soupçons de corruption. Aujourd'hui, ses dirigeants ont le droit de dire, comme ils l'ont d'ailleurs fait hier soir, ça peut difficilement aller mieux. Et c'est vrai qu'à ce rythme-là, la prochaine fois, ils gagneront.
Et en plus, on parle là d'une extrême droite qui est vraiment une extrême droite radicale.
Oui, en ex-Allemagne de l'Est, l'AFD ne sert pas un discours tiède qui chercherait la normalisation. Il s'agit bien d'une extrême droite dure. Ses principaux leaders, Andreas Kalbitz et Jörg Urban, ont pour l'un fréquenté longtemps les groupuscules néo-nazis, pour l'autre les mouvements islamophobes. Ils sont directement liés à une organisation ultra-radicale qui s'appelle Der Flügel, ça veut dire l'aile, qui est placée sous surveillance quand même des services de renseignement intérieur allemand. Son patron, qui s'appelle Björn Höcke, ne cache d'ailleurs pas sa xénophobie, son révisionnisme aussi. Il y a deux ans, il avait qualifié le mémorial de la Shoah de « monument de la honte ». Il estime que l'Allemagne devrait, je cite, « revoir à 180 degrés sa culture mémorielle ». Sous-entendu, hein, c'était pas si mal sous les nazis. Et d'ailleurs, à la marge de cette poussée d'extrême droite, les groupuscules néo-nazis, NSU, Combat 18, prospèrent à nouveau, 25 000 sympathisants environ, dont la moitié considérés comme des éléments violents. Il y a un autre phénomène préoccupant, c'est que dans plusieurs municipalités d'ex-Allemagne de l'Est, le cordon républicain ne tient pas. Autrement dit, localement, des élus de la CDU font déjà alliance avec l'extrême droite. Et le patron des chrétiens démocrates en Saxe, Michael Kretschmer, ne s'en cache d'ailleurs même pas sur plusieurs sujets comme l'opposition au mariage homosexuel, la nécessité d'une alliance avec la Russie. Il est proche de l'AFD. Donc oui, c'est inquiétant.
Alors, en même temps, une telle poussée de l'extrême droite, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu en Europe, on l'a déjà vu en France, on l'a déjà vu en Italie.
C'est vrai, sauf que, pardonnez-moi si c'est un cliché, mais on parle là de l'Allemagne, non seulement la première économie européenne, mais surtout le passé que l'on connaît. Donc l'enjeu symbolique est plus fort que nulle part ailleurs. Si l'Allemagne n'est plus vaccinée contre le poison d'extrême droite, révisionniste et antisémite, le danger est majeur. Et en même temps, les causes sont connues. De quoi s'agit-il? Il s'agit du retour du mur de Berlin, ou plutôt de la persistance du mur. C'est-à-dire que la population d'ex-Allemagne de l'Est, en particulier dans les petites villes, les campagnes, vote en masse pour l'extrême droite parce qu'elle se sent méprisée, déclassée, considérée comme une population de seconde zone. Moins de travail, moins de lignes de chemin de fer, moins d'hôpitaux, moins de grandes entreprises, moins de tout par rapport à l'ouest du pays. Et puis des managers d'entreprises qui sont généralement tous catapultés de l'ouest. Dans deux mois, début novembre, on fêtera les 30 ans de la chute du mur, mais en fait, la réunification s'est arrêtée en chemin. Vous savez, Feu Elie Wiesel écrivait « Je crains ce qu'il y a derrière le mur ». Il avait raison. Si la réunification allemande n'est pas achevée, le risque est grand de voir la bête immonde fasciste ressurgir.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain, le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne et le journal de Sébastien Power. Ne bougez pas, on s'occupe de tout.